Christophe Théobald, dans votre parcours, il y a eu certainement des événements, voire des rencontres, qui vous ont permis de plonger dans la réception du Concile Vatican II. Est-ce que d'abord vous pourriez nous dire un peu pourquoi cette passion sur la réception du Concile Vatican II?
J'ai eu évidemment des cours sur Vatican II pendant mes études de théologie, en 66, quand j'ai commencé. Mais ensuite, j'ai retrouvé le Concile Vatican II au début de mon enseignement. Et notre père général, à l'époque, avait dit « La compagnie a beaucoup œuvré après le Concile de Trente, pour la réception de Trente, il faut aussi que nous travaillions pour la réception du Concile Vatican II ». Et je me suis mis à donner des cours. Et après, on m'a demandé pour des conférences, etc. Finalement, ça aboutit à tel ou tel ouvrage.
Un ouvrage important et dont le sous-titre est...
Accéder à la source.
Accéder à la source.
Accéder à la source. C'est le premier volume. Je suis en train de faire le deuxième qui s'appellera L'Église dans l'histoire et la société. Donc, il y a deux volumes qui sont prévus. Ça, c'est le projet.
Alors, dans ce sous-titre, accéder à la source, il y a ce verbe accéder et puis il y a la source.
Oui, accéder, évidemment, je dirais, ça c'est, je dirais, un terme paulinien tout à fait décisif. Et c'est ce qui caractérise, je dirais, un peu la foi chrétienne, à mon avis. On peut le dire avec ce seul mot « accès ». Dans l'Esprit Saint, par le Christ, nous avons accès à l'intimité même de Dieu. Voilà, ça c'est le cœur de la tradition chrétienne. Nous avons accès à l'intimité même de Dieu. Et ça, aucune autre religion ou aucune autre tradition nous propose cela. Donc je crois que c'est ça, au fond, le fond de l'aventure humaine. Et dans Dei Verbum, c'est redit avec une extraordinaire précision, d'emblée, je dirais, dans le chapitre 1. Donc, la source, alors, elle est unique, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile de Dieu, ou Dieu comme Évangile, pourrait-on dire, l'intimité de Dieu comme notre Évangile. Voilà.
Ce qui me vient en vous écoutant, Christophe Théobald, c'est aussi les premiers mots des Béatitudes. Heureux es-tu.
Ah oui, parce que c'est une manière de dire l'Évangile, évidemment, hein, les Béatitudes. Ce qui m'a toujours frappé, qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y en a 9 chez Matthieu, il y en a 7 dans l'Apocalypse, il y en a 8 chez Luc, et on va trouver d'autres aussi. Ça montre aussi, au fond, il y a une pluralité d'accès à la béatitude. Il y a une pluralité d'accès et chacun doit partir du point où il en est. Et alors, évidemment, c'est une manière de dire l'Évangile dans toute sa radicalité, parce que ça implique une sacrée conversion quand même. Heureux les pauvres, ça suppose une disponibilité intérieure, une vulnérabilité, l'acceptation de la fragilité, etc. C'est un long, long chemin, je trouve.
Et quand vous dites source, c'est aussi cette source, c'est aussi une personne, mais cette personne déploie aussi une pédagogie d'accès.
Ah mais absolument, alors moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de l'itinéraire même de Jésus de Nazareth. Le verbe fait chair, dire selon le prologue et l'ensemble du quatrième évangile, bien sûr. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, quand on regarde un peu dans le Concile Vatican II, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on raconte un peu l'itinéraire de Jésus de Nazareth. Il y a 2-3 endroits qu'on a. Alors évidemment, j'ai dit, il y a des résumés, très importants, les résumés dans l'écriture aussi, on a des résumés. On a le résumé dans le numéro 4 de Dei Verbum, par exemple. Mais on a quelque chose de plus étendu, je trouve, plus déployé, dans Dignitatis Humanae, dans la deuxième partie, sur la manière de procéder de Jésus de Nazareth. Et ça, c'est absolument remarquable, parce qu'il y a tout le vocabulaire de la voix, et la manière de se tenir, on a un peu quelque chose d'analogue d'ailleurs dans la tertia de la troisième partie de saint Thomas, dans la somme, le modus conversationis Christi. Il y a toute une question de saint Thomas là-dessus, la manière de se rapporter à autrui, de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait décisif dans le texte de Dignitatis Humanae.
Est-ce que c'est aussi décisif la réception de Dei Verbum, cette façon que Dei Verbum a eu de se rapporter au monde? Et aujourd'hui, comment pouvons-nous recevoir Dei Verbum?
Moi, je milite un tout petit peu pour qu'on restitue, je dirais, Dei Verbum dans l'ensemble du corpus de Vatican II. C'est tout à fait décisif. C'est le texte principiel de Vatican II. C'est le principe de la parole de Dieu et de l'expérience de l'écoute. Mais en même temps, il faut écouter aussi la présence de la parole de Dieu dans nos sociétés humaines. Et ça, c'est la tâche du discernement des signes des temps. Quand vous regardez le prologue, c'est extraordinaire. Le prologue de Gaudium et Spes, les quatre prologues ou les quatre ouvertures des quatre constitutions forment vraiment un ensemble théologique. Dans Gaudium et Spes, c'est l'écho de ce qui est humain, de tout ce qui est humain dans le cœur du chrétien, du disciple du Christ. C'est cet écho-là qui lui permet de dire aujourd'hui la parole de Dieu d'une manière ajustée à notre époque. Ça me paraît tout à fait décisif, cette sorte de rencontre entre la parole de Dieu et le contexte qu'il faut lire, évidemment, je dirais selon la consigne, lire les signes des temps.
Et justement, ces signes des temps ne sont pas les mêmes il y a 50 ans qu'aujourd'hui.
Non, il y a une différence. Alors évidemment, on ne peut pas là, je dirais, traverser les différents contextes sur le plan mondial. Je dirais pour l'Europe, je parlerais, je dirais, du phénomène à la fois de la postmodernité, donc une sorte de pluralisme radical qui relativise au fond tout. Parfois, je dis aussi à mes auditeurs, c'est le tout provisoire. On n'a plus le sens du définitif, finalement. Alors, dans l'existence humaine, il y a des choses qui sont définitives, tout à fait. C'est aussi la déchristianisation, quand même assez radicale. Parfois, on parle en termes d'exculturation. Je pense que ce n'était pas à l'ordre du jour en 1962-1965, à ce point-là. Et du coup, il y a tout un travail d'évangélisation à faire aujourd'hui. Et c'est un travail d'évangélisation qu'il ne faut pas réduire à des stratégies de reconquête ou des stratégies d'évangélisation. Il faut des moyens, bien sûr, mais c'est une nouvelle manière d'écouter l'évangile aujourd'hui qui est à l'ordre du jour. Un évangile qui doit rencontrer réellement le cœur humain, hein, parce qu'il y a quand même une question de crédibilité.
Qu'est-ce que vous proposez dans cette crédibilité qui est en jeu?
Oui, je dirais, c'est un peu la cohérence quand même, je dirais, qui est l'enjeu. Je pense que l'homme contemporain, quel qu'il soit son âge, est extrêmement sensible à la cohérence, à l'authenticité d'une personne. Ça, je suis convaincu, je fais continuellement l'expérience de ça. Et je dirais, fait partie aussi de cette authenticité, de cette cohérence. Alors si on la pousse jusqu'au bout, on peut parler avec Vatican II de la sainteté, l'appel universel à la sainteté. Mais restons un peu au niveau humain d'abord. Fait partie de cette cohérence, de cette authenticité, qu'on est capable d'avouer ces incohérences. Et je trouve ça, c'est très très important aussi, je dirais, pour les acteurs de l'Église, les acteurs pastoraux, pour l'Église entière, qu'elle se présente, je dirais, de manière vulnérable devant les êtres humains, comme Dieu se présente vulnérable avec son Évangile.
Pour terminer, Christophe Théobald, il y a une phrase que vous aimez, je crois, une phrase de Goethe. « Né pour voir, préposé au regard, j'aime ce monde, je regarde dans le lointain. » Comment est-ce que vous liez cette phrase avec saint Paul?
On l'appelle aussi en allemand « Liebesturm », c'est-à-dire c'est le gardien dans la tour qui regarde et qui contemple, n'est-ce pas? Je crois que c'est très important, l'acte de contemplation, c'est à la fois avec les yeux fermés, contempler, je dirais, intérieurement Dieu, mais c'est contempler aussi le monde. Et donc, c'est l'image de l'horizon qui me vient. Et c'est ça qui est important, d'ailleurs, chez Goethe. Un horizon, n'est-ce pas, large et ouvert, le monde entier qui est le monde de Dieu. Et je pense que Paul a fait cette expérience-là. Il n'est peut-être pas monté sur une tour, mais il a quand même beaucoup voyagé et regardé de très loin.
Quelle est l'expression de prière de saint Paul qui vous rejoint le plus, qui vous nourrit le plus?
C'est à la fois, je dirais, dans l'Épître aux Romains, sur l'abîme de Dieu, il s'adresse à ce qui est abyssal en Dieu. Et donc, au fond, je dirais, l'expérience de silence que j'entends à ce moment-là, ce n'est pas un silence sans parole, mais c'est un silence qui parle. Et l'autre texte, au fond, de prière, que je prends comme prière parfois chez saint Paul, c'est « Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu ». Et on a cette magnifique dynamique ici qui nous conduit vers l'intimité de Dieu et je me laisse emmener dans la prière, dans cette dynamique.
Merci Christophe Théobald.
Merci à vous.